Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de France.
Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel,
106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur Langue de Fronde.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut à toi, Maëna. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Vous écoutez les Langues de Fronde, l'émission queer féministe. Et vous avez bien raison.
Et aujourd'hui, sur le plateau, on a...
Isée.
Mirko.
Et Asia, et pour l'émission d'aujourd'hui, on va d'abord commencer par écouter le documentaire de Mirko, ici présente, qu'il a produit pour Arte Radio en 2018. Et on vous retrouve juste après, donc dans 33 petites minutes sur le plateau, pour en discuter tous les trois. Bonne écoute.
Tu me refais un thé, Soraya, s'il te plaît?
Ok, j'y vais.
T'as des nouvelles de Jean-Pierre?
Il n'a pas été reçu par le juge, il est en mandat de dépôt. Ça va être long, c'est pas pour maintenant. C'était pour une affaire qui a été plutôt grave, tu vois, parce qu'il a volé le cousin à Sarkozy. Et il lui a volé le violon Vadivadius, là, je sais plus quoi.
Stradivarius,
voilà. Et sa nana, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a emmené à Cash Converter pour le vendre avec sa pièce d'identité.
Ah, Sophie.
Il a été reconnu tout de suite, le violon. Bah, donc oui, la police est venue, naninana. Elles, ils ont été chez elle, ils l'ont arrêté. Mais lui, pas de domicile fixe. Il venait souvent chez moi. Mais ils ont débarqué chez moi, le chercher. Chez moi, ils sont venus deux fois. Hein. Et une fois, en plus, j'avais les jeunes de la cité qui faisaient cuire de la galette. Et ils sont rentrés. Je te jure, la galette, elle faisait comme ça, boum, 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 sur la gazinière, dans la casserole. J'ai dit, putain, je suis pas dans la merde. Une plaquette comme ça, de 30 grammes, posée sur le bureau. Le mec, il a juste mis, je sais plus quoi, son portable dessus, je sais plus quoi. Ils sont partis, ils ont pas... Et là, vendredi matin, ben, ils sont pointés à la porte. Ils m'ont dit, colis. Je regarde à l'œilleton, colis, ça, c'est pas un facteur. Hein. J'ouvre la porte gentiment, tu vois. Il y a tous un clic, tu vois, devant la porte. Donc, je les laisse rentrer. Ils me disent, vous êtes avec qui à la maison? J'aurais dit, hop, là, il y a ma fille et sa copine. Et dans le salon, j'ai un ami qui dort. Bah, c'est lui qu'on est venu voir. Bah, ils sont rentrés, ils dormaient. Arrêtez-vous. Ils lui ont menotté. Comme ça, tu vois, je leur ai jeté un petit mot comme ça. J'aurais dit, il est où mon colis? Tu vois, ils se sont éclatés de rire. Il s'est retourné comme ça, il y avait un carton. Il a dit, il est là.
Je m'appelle Soraya, j'ai 56 ans. Je me suis mariée jeune, avec un truand, et avec les 12 ans de vie commune. Moi, je faisais absolument rien, mais je voyais tout ce qu'il faisait. Et puis voilà, j'ai réussi à devenir plus forte que lui. Lui, il était au chômage, et moi, ben, j'amplifiais mes conneries. Moi, j'aime bien voler, ni vu ni connu. Et j'ai aimé l'adrénaline que ça m'apportait, tu vois. Cette force que j'avais, tu vois, pour réussir mes coups, en fin de compte. C'est en même temps cette palpitation du cœur, parce que tu regardes à droite, à gauche, tu ne vas pas te faire griller. Mais ça marchait tellement bien, oui, j'étais contente, j'étais heureuse.
Thank you.
pour moi, ça, c'est du matos qui est tellement coupé qu'en fin de compte, on ne ressent pas du tout la même chose. Je pense que pour ressentir la même chose, il faudrait peut-être aller en Colombie et fumer un bon petit caillou colombien, là. Là, je pense qu'on va décoller les fusées. Ouais, là, oui. Mais actuellement, je ne pense plus qu'il y a de la coque. Vraiment, comme on dit même, je dirais, à 50%. Il n'y en a plus. Tu vois, la première taf du début qui te donnait les palpitations, mais aussi la transpiration. Et puis, tu vois, c'est-à-dire, y avait quelque chose. Maintenant, quand on fume, on sent que les palpitations, c'est tout.
Mais moi, je trouve qu'il y a un autre paramètre qui est vachement important. Hein.
C'est lequel ?
On n'a plus le même âge. Je pense qu'au niveau cardio, au niveau circulation sanguine, au niveau neurologique,
c'est vrai.
On s'est quand même bien fatigué, quoi.
Je m'appelle Mélissa, j'ai 47 ans. J'ai pratiqué la prostitution de 25 à 35 ans par intermittence.
Ah, ça c'est un des chemisiers rescapés des années sexy. Ça aussi.
C'était une robe, comment on appelle ça, portefeuille. Voilà, une robe portefeuille rouge vif. Et puis elle était... au moins 5-6 cm sous le genou. Elle était un peu long pour le cliché qu'on a des fois des prostituées. Puis les talons aiguilles, c'est pareil. C'était des talons aiguilles, pas vernis rouge, mais rouge. Parce qu'à l'époque, je faisais ferrer tous mes talons. Il fallait que j'entende ce petit clic, clic, clic. Et c'est... oui, c'est un déguisement, c'est un jeu de rôle. Chaque nuit est une histoire que tu vis différemment. Toujours dans le même rôle. Et quelque part, ce déguisement de féminité, il est pour attirer. Et paradoxalement, il est aussi pour te protéger.
Oh là là, fouille pas. Dis donc, la preuve que je les ai abandonnés, les talons. Hein.
Oh là, hein. T'as vu ça quand même, si on savait quelle belle carrière ils ont eue.
Donc je prends les sacs dans les casiers, je prends... avec le temps, j'ai appris qu'il ne fallait pas prendre tout le sac parce que la bonne femme le repère tout de suite, que si je prends que son trousseau de clés et l'adresse, aucune carte bleue, aucun chéquier, bah, je pourrais aller plus loin. Puis j'ai commencé comme ça. La première clé, en fin de compte, que j'ai récupérée, c'était cette prof que je suivais depuis pas mal de temps. C'est un tuyau qu'on m'avait donné. On m'a dit que c'était une prof qui avait beaucoup voyagé, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Elle faisait les primaires. À midi, je suis rentrée dans sa classe. Elle n'était pas dedans. J'ai pris les clés. Je suis sortie. J'ai fait les doubles. Je lui ai remis ses clés à 13h dans sa poche. Je suis rentrée avec ses clés, normalement. J'ai rien bousillé chez elle. J'ai ouvert que des tiroirs. Bon, j'ai vu qu'elle avait pas mal de bijoux dans des tiroirs, tous avec des écrins et tout. Moi, j'ai tout ramassé. Puis en sortant, il y avait un placard comme ça. Je l'ai ouvert, j'ai vu une pochette. Je l'ai ouvert. J'ai dit, oh mon Dieu, il est avec moi. Avec les bijoux, je trouve même de l'oseille. Ben, j'ai mis ça ici, les bijoux dans mon cabas. Je suis sortie de la maison en fermant la porte. Donc voilà, moi, c'est les vols que j'aime faire. Après, les petits vols, ça ne m'intéresse pas. Après, oui, quand je suis grillée un peu partout, je peux aller à Galerie Lafayette et prendre des sacs qui coûtent quand même 1700, 1800, puis que je revends quand même une certaine somme. Ça me fait toujours du liquide. Je n'aime pas avoir du matériel, j'aime avoir du liquide dans les mains.
J'avais le cliché de Strasbourg-Saint-Denis, mais je me disais non, c'est trop, ça va pas, ça sera pas pour moi. Donc je suis allée à Port-Dauphine, le premier. Alors que voilà, avec toute ma naïveté, tout mon imaginaire, sans savoir que c'était un terrain de plus d'échangisme quelque part. Il y a une perversion friquée là-bas. Il y a de l'argent, ok, mais il y a du high level au niveau des demandes sexuelles. Donc, moi, je me suis retrouvée là-bas. Donc, c'est vrai que j'ai dû envoyer balader un, deux. c'était très pénible parce que j'étais jamais dans le schéma de ce qui était recherché. Alors, des bagnoles qui s'arrêtaient, ça, il y en a eu un lot. Mais ce qu'on me présentait me dépassait, moi, en fait, parce que je ne connaissais rien. Comme quelqu'un qui m'a parlé d'un god, je ne sais même pas, je ne savais même pas ce que c'était un god. Pour moi, god, c'était Dieu. Je suis allée une journée, deux jours. Et je faisais pas énormément d'argent par rapport à ce que j'ai pu faire après. C'est-à-dire que là, les gens arrivaient, ils étaient en couple. Donc non, je viens pas, non, je viens pas. Et il y a un mec qui s'arrête, il est tout seul. Il dit, oh, c'est bien. Puis bon, voilà, il me demande rien d'exceptionnel. Je monte et il roule. Alors, moi, j'aime bien guider. J'aime bien, voilà, garder le contrôle du début à la fin. Voilà. Donc le monsieur, je lui dis d'aller là, il n'y va pas. Donc là, je commençais à sentir que c'était, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Donc là, il s'arrête, il me sort le 11-43, il me le met sur la tête, il me dit, voilà, ça fait 3 jours que tu viens bosser de telle heure à telle heure. Il me dit, moi, il n'y a pas de problème, tu peux travailler là, mais je demande, alors je ne sais plus combien de pourcentage il demandait, je demande tant. Et là, je me suis dit, merde. J'avais un côté casse-cou, tête brûlée. Mais quand même, là, j'avais eu un 11-43 sur la tête. Donc, j'ai dû abandonner ce terrain.
On était habitué à l'argent facile.
Moi, pour moi, ça n'a jamais été de l'argent facile. J'ai un rapport à l'honnêteté, peut-être, qui est différent de toi. Mais moi, les cambriolages, 5 ans, j'ai fait les cambriolages. J'ai jamais pu sortir d'un appartement sans ressentir toujours de l'empathie pour les gens que j'ai braqués. Je me suis toujours sentie coupable. Donc j'ai su que c'était pas ma voie. Donc ouais. Moi, les cambriolages, c'était vraiment pour mettre l'aiguille dans le bras.
T'as vu le nombre de cambriolages quand je regarde les émissions? Non, mais c'est un truc de malade. Avant, il n'y avait que nous. Il y avait ceux qui savaient le métier. Il y en a qui travaillent aux forceurs, il y en a qui travaillent. T'as vu, chacun avait sa façon. Mais on se connaissait entre nous. Maintenant, t'as des gens de l'Est, t'as des Roumains, t'as de tout. Et qui tapent de tout. Nous, on ne tapait pas de tout.
Ah ben, en ce moment, c'est
nous, on suivait les gens, les commerçants, les gens de discothèques, les patrons de discothèques, les trucs. On les suivait, on savait où ils étaient résidés, on savait s'ils cachaient de l'argent, s'ils trichaient avec les impôts. C'est-à-dire, c'était vraiment un travail longue haleine, tu vois. Puis, dans le milieu, tout se connaît, tu vois. Serrure Picard, ouais, c'est que c'est blindé, double battante, c'est que il y a de l'argent, tu vois. Mais maintenant, c'est plus pareil. Les premières baies vitrées qu'ils trouvent, même si c'est des pauvres baies vitrées, et puis on sait qu'il y a rien dedans, ils vont quand même casser. C'est bête. Mais après, il y a travail et travail. T'as vu le travail propre où on essaye de pas démolir la maison avec le respect de cette personne. Nous, on l'avait à l'époque. Que quand tu détruis toute une maison et que là, vraiment, t'as pas respecté du tout la personne, c'est encore différent. Mais après, les peines aussi sont différentes. Parce que quand tu détruis tout, tu prends des petites peines. Mais quand tu travailles proprement, ben, on dit que t'es professionnel et on te cartonne. Donc, tu vois, comment faire pour avoir la juste mesure? Tes amours, comment vont-ils?
C'est une blague. Le gros dinosaure, là, il est rentré tellement fat parce qu'il avait fait une nuit blanche avant.
Il rentre sans queue.
Merde. Exactement. Non. Puis la sexualité, c'est la santé.
Elle parle que de cul, cette meuf.
Ça fait un mois.
Oh, ma pauvre chérie. Oh, ma pauvre chérie.
Mais t'as vu ça où, toi?
Ça fait un mois. Un mois. Ça fait 10 ans.
Mais toi, t'as fait un deuil précoce, toi.
Ah oui, moi, j'ai fait vraiment un deuil précoce.
Ah, t'as fait un deuil précoce.
Là, je revois une vieille connaissance. Bon, alors, il sort d'une longue peine, là. Pour Braco, je crois. Mais bon, il sort d'une longue peine. Je sais que ça... Je sais que t'allais jaser. Je sais, je sais.
Ah, je dis rien, moi.
Mais pour l'instant, il est droit. Les 8 jours que j'étais chez mon père, il m'a appelé tous les jours. On s'est appelé plusieurs fois par jour. On s'est envoyé sur 7 jours 162 SMS, un truc comme ça. Donc, ouais, mais bon, c'est bon à prendre. C'est du prix. Tu rêves, tu te fais des films, tu redeviens adolescente.
T'as des gargouilles.
T'as une montée d'hormones. Mais c'est top, tout ça. C'est bon pour la santé. C'est un sport comme un autre.
À minuit, t'es vite redescendue.
Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis Cendrillon, moi. Il s'appelle Eddie.
Je le connais, mais à l'époque, hein, on va dire.
Tu le voyais en moto.
C'est un ancien, tu vois. C'est un ancien.
42 ans.
Oui, mais il est ancien dans le milieu, je vais dire. Ah. C'est pas d'aujourd'hui. Il traînait à rue Mira et tout. Mais je vois c'est qui, mais il a dû vieillir, hein, le mec. Il a dû...
Non, ah non, j'ai pas photo. Non, justement, parce que... Ah ben non, la prison, ça conserve.
Ça conserve, c'est vrai. Et la coque aussi, ça conserve.
Tu trouves que la coque conserve?
Ah ouais, moi je trouve que la coque, elle conserve.
Faudra dire ça à mes dents, hein.
Tu veux un bout de gâteau? Tiens, avec ton chocolat chaud, c'est bon.
Je m'étais construit tout un mécanisme de défense, en fait. Enfin, c'est maintenant que je sais ça, que maintenant que j'arrive à décrypter les gens et à décrypter les lieux. À partir du moment que tu quittes les pieds, tes pieds quittent le sol et que tu montes dans la voiture, c'est un engagement quand même très, très, très sérieux. Et surtout que la transaction est sur ton corps. La voiture s'arrête. Elle baisse sa vitre, tu te baisses. Moi, je regarde tout de suite. Tout partout dans la bagnole, je regarde l'hygiène des mains du monsieur, son vestimentaire, toutes les odeurs qu'il peut y avoir dans la bagnole, cigarettes, ça peut être du shit, de la beuh, de l'alcool. Moi qui ne bois pas une goutte d'alcool, je ne monterai jamais avec quelqu'un qui est bourré. Tout l'intérêt que je trouve dans ce métier, c'est de garder le contrôle. J'avais des belles pièces quand même. De prêt-à-porter, quoi. Prêt-à-porter et des fois des trucs de haute couture. Donc t'as envie de les garder. Mais ouais, t'arrives pas. Hein, les godasses, pareil. Hein, c'est dingue hein, quand je vois en fait ce qu'il me reste. Il me reste rien. Quand tu travailles à domicile, c'est toi qui vas au domicile des gens. Déjà, c'est moi je trouve plus dangereux et après j'ai vraiment il y a quand même je suis quand même une amoureuse de la nuit je suis en retraite à présent mais je suis nostalgique des années que j'ai vécu la nuit, j'en suis nostalgique. Il y en a c'est les murs de leur maison, c'est leur habitat, leur voiture, ils ont un endroit, un nid. Moi quelque part c'est la nuit. Pour moi, c'était une solution qui a été vraiment kiffante au début, même si dangereuse, mais je ne me rendais pas compte. Et puis, j'étais influencée par deux filles héroïnomanes, parce que j'étais héroïnomane à l'époque, à l'injection, et qui allaient se prostituer. Et puis, moi, je les trouvais... ma perception à cette époque était que je les trouvais vachement bien dans leur peau. Bon, ça paraît comique aujourd'hui, mais parce qu'elles étaient dans une sorte d'indépendance. Moi, ce qui m'a charmée chez ces filles, c'est ce côté indépendant. Même si elles avaient une relation amoureuse à côté, elles étaient indépendantes.
Moi, j'ai été dans cette posture. J'ai un mec, je vais bosser. Mais l'argent, il était pour moi, d'une. C'était pas genre,
ouais,
il m'attend.
Je dis pas spécialement.
Je veux dire, même s'il est là, c'est, si je donne, c'est parce que j'en ai envie. La nana qui va se faire 8 heures bosser à la caisse, elle va bosser en tant que caissière pendant 8 heures, elle, je sais pas, elle fait des courses à la maison, elle fait croquer son bonhomme. Bon, toi, ton métier, c'est la prostitution, tu fais de l'argent, tu fais croquer ton bonhomme. Après, je sais qu'il y a plein d'histoires de merde, bien sûr. Mais je crois que la nana... Qui arrose un mec, Elle sait ce qu'elle fait. C'est vrai. Et c'est vrai que tu as des relations, mais je trouve que tu as des belles petites histoires, mais elles sont vraiment... c'est un rapport modifié.
Mon dernier mec, là, l'Israélien, bah, je suis désolée, il avait un bon poste, pas loin de l'Assemblée, il gagnait bien sa vie. Bah, voilà, je veux dire, même s'il touche, il est à fond toxico, même plus que moi peut-être, mais ça se voit pas sur lui. Ça, j'étais attirée par ce genre d'homme. Mais le genre d'homme vraiment du milieu, tu vois, avec les nanas qui vont tapiner, qui reviennent. Moi, j'ai vu beaucoup ça, tu vois, dans le milieu. Et moi, je suis choquée.
Moi, c'est quand même dans le milieu, hein, sur un trottoir à Strasbourg-Saint-Denis, hein, voilà, rue Saint-Apolline, je crois, tu sais. Bah, c'est quand même en étant là, hein, qu'un mec à fond dedans et dealer, qui m'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il m'a dit, t'habites où? Je suis à l'hôtel là-bas. Il dit, voilà, moi, je prends tout en charge. Il passait, il payait tous les jours, j'avais le petit déj, c'était un hôtel 2 étoiles. Et pendant plusieurs mois, il s'est occupé de moi comme ça. Et il payait 2 mecs. Il les payait pour que quand je sorte accompagnée de ces 2 gars. Non mais attends, c'est un film ça. Quand je raconte ça, j'imagine que... Non. J'ai jamais été plus valorisée que dans le milieu. On est restés 3 ans ensemble. Tu me repasses du gâteau, s'il te plaît?
Avec plaisir.
Comment ça s'organise, les fiançailles de ta fille?
Bien, on va le faire chez l'ex-femme à mon ex-mari.
Bah, c'est ton ex.
C'est mon ex, mais il a aussi divorcé d'elle. Donc, emmener des beaux-parents chez deux femmes divorcées...
Mais
oui.
Il va avec... Mais pourquoi?
Bah, parce que chez elle, c'est plus grand. Et elle me l'a proposé gentiment, donc je pense que c'est plus faisable. Parce qu'elle, elle fait plus rebeu, tu vois, elle vient du bled pour les gâteaux et tout. Moi, je ne m'y connais pas, tu vois, moi, je vais pas poser ça. Moi, j'en ai à foutre. Des luges, je vais poser des gâteaux français, tu vois. Et en même temps, c'est les fiançailles rebeu, c'est pas eux français, tu vois. Donc,
c'est discriminant.
Ça, c'est à Torcy. Je retrouve toutes mes anciennes photos et mon fils, je ne le vois pas. Alors, tu sais, je suis myope hein, maintenant. Hein. Je ne vois pratiquement plus. Moi.
C'est vrai. Tu ne fais pas défiler en gros. Fais défiler en gros.
Tiens, avec Laetitia Casta, à la radio. Je t'ai bronzée, là. Mmh. Dans ouais. La cour de Fleury, attention.
Ben, c'est d'où la bonne mine.
Ça, c'est mon fils quand il était en... Bon, il avait 16 ans. Ça, c'est sa femme, maintenant. Alors, ça, c'est ma fille. C'est le jour de son anniversaire.
Ouais, mais ça, je la connais.
Tu la connais, celle-là? Ben oui, elle est toujours dans mon portefeuille. Alors maintenant, elle est où? Parce que ma fille, on a tellement de photos d'elle, en fin de compte. Que... Un enfant, quand il vient, mon fils, la vérité, c'était un bébé chéri, c'est-à-dire voulu, vraiment engagé et tout. Peut-être que ma fille, c'est un accident, c'est différent. Mais à l'accouchement, en fin de compte, c'était un bonheur parce que voilà, c'est un bébé qui naît et tu vois, t'es obligé de l'instinct maternel, malgré que j'aimais pas le père, je veux dire, il a ressurgi. Si j'avais eu les moyens, j'aurais même adopté.
C'est qui là que tu veux pas montrer?
C'est son père.
Ben voilà, ben montre-le.
Hein. Ah ben
j'aimerais bien voir sa tronche, moi.
Voilà, c'est son père.
J'aime pas. Non, mais pardon. Ouh, il me fait peur. Oh non, mais attends, il a un nez pointu, des non, yeux noirs, pas, des non, yeux... Non.
Les yeux noirs, olives, comme
des
ça.
Des yeux. Mmh. C'est celui qui prend de la cocaïne et qui boit de l'alcool.
Mais je sais pas, là, il fumait du shit, je crois.
Sinon, il a les yeux. Ah ouais. Bouclette.
Bouclette, boucle d'or.
Alors, un enfant, le premier... je l'ai eu donc avec le premier des papas, 3 enfants, 3 papas, et j'étais dans l'illusion de découvrir ce que c'était qu'une famille. Alors j'étais déjà dans l'addiction moi, mais j'ai vécu une grossesse isolée quelque part parce que bon, quand il rentrait le soir, c'était pas avec des courses. Je m'en rappelle, il rentrait avec des pains ronds, des pains robeux maghrébins.
et un litre de lait. Alors, tu vois le pain rond et le litre de lait. Et puis, dans le pain rond, il y avait l'héroïne, 5 grammes, manger minimum 5 grammes. Et voilà, il cache. Donc, c'était... En fait, bon, le problème a toujours été... C'est vrai que la substance a été un peu le poison, l'anti-famille, quelque part.
Mon fils est resté 26 ans avec moi. Il fume pas, il boit pas, il est pas voyou. Et il m'a toujours dit, je ne referai pas les mêmes erreurs que toi. Il savait que je volais. Il savait que quand les flics l'appelaient, il fallait qu'il nettoie la maison. Tu vois, il fallait qu'il vide tous les lieux de choses susceptibles d'être venues d'un vol. Et voilà, il fouillait dans ma chambre, il sortait tout. Il a trouvé de la drogue, il l'a sorti. Il a trouvé des chéquiers, il les a sortis. Il a trouvé des trucs, mais voilà, il savait que je volais. Parce que comme disait Mélissa, il y a la communication. Mon fils, il me dit toujours, « Maman, je t'en veux pas pour la vie que t'as menée. Parce que tu m'as toujours gâtée. » Tu as toujours commencé par moi. Le frigo était toujours plein. Tu étais toujours à la maison. Mais je t'en veux parce que c'est vrai. Des fois, quand je me droguais, je n'aimais pas rentrer. Tu vois, pour pas qu'il me voie défoncé, en fin de compte, je restais dehors. Mais il me dit, si tu meurs un jour, tu vois, je ne sais même pas où aller te chercher. Tu vois, c'est ce qu'il me reprochait. Mais avec le temps, j'ai appris à gérer. Je ramenais mon matos chez moi, dans ma chambre, pas devant mon fils, hein, toujours caché. Mon fils, pour rentrer dans ma chambre, il est obligé de frapper. Je lui ai appris ça petit, parce que moi-même, je ne rentre pas dans sa chambre tant que je n'ai pas frappé à la porte. Mais par contre, quand il était petit, j'ai préféré le mettre en nourrice. Je touchais à l'héro à cette époque. Je ne me réveillais pas le matin pour déjeuner. C'est compliqué quand tu as un enfant, parce qu'il faut lui donner son petit-déj, il faut lui donner son biberon et tout. Mais à un an et demi, je l'ai placé en nourrice.
C'est mon grand, ça. C'est Mehdi. Alors, il devait avoir 6-7 ans, là. Mais voilà, ça, c'est mon fils, ma fille. Mes enfants, bon, ils ont été placés, mais je suis toujours restée, écouter les téléphones, j'ai toujours appelé, j'ai fait des courriers. Je leur ai toujours dit la vérité. Quand j'ai eu une petite altercation verbale avec mon fils aîné à Noël, mais pourquoi t'as fait des enfants? Tu m'as abandonné. Enfin, c'est des choses qui sont très violentes à entendre. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai fait ce que je pouvais. Après, c'est une souffrance énorme des deux côtés. Quand je vois aujourd'hui mon fils qui est comptable, ma fille qui va rentrer en formation après un bac S, donc je pense que j'ai bien fait, mais qu'il n'y a pas de réparation sans dommage, malheureusement.
Ben, simplement, ça s'est arrêté parce que... Je suis sortie en permission suite à une peine de 15 mois. Je suis sortie, mon fils est venu me chercher à 6 heures du matin. Et comme par hasard, la galette m'appelle. Quand je dis galette, c'est plus les gens qui y touchent, quoi. Qui m'appellent, ouais, viens nous voir, on te ramènera, etc. Donc j'ai été, effectivement, j'ai été. Mais on ne m'a pas ramenée. À 20h, donc j'étais déjà une évadée à 21h. Donc quand on est sous pression, qu'on a fumé, on a encore plus peur. En fin de compte, on est comme tétanisé sur place. J'ai été tétanisée comme ça toute la nuit, mais le lendemain matin, je me suis dit, il faut vraiment que je rentre, quoi. Je voulais vraiment rentrer le matin. J'ai laissé le mec dormir, la nana, elle s'est réveillée. Elle me dit, bah, je t'accompagne, comme ça je ramène la bécane. Mais avant, passe à Pantin, comme ça je prends deux galettes. Bah avant de passer à Pantin, bah le bon Dieu il a dit tu vas d'abord te planter avant d'aller chercher tes galettes et après tu retourneras en prison sans problème. J'ai fait l'accident, voilà. L'accident est survenu, je me suis retrouvée à l'hôpital et je me suis retrouvée à l'hôpital de Fresnes pour finir ma peine. Là j'ai dit stop, parce que en fin de compte, si j'avais pas suivi, j'aurais bien fait ma permission, je serais re-rentrée, je serais sortie tôt. Et ça a déçu aussi beaucoup mon fils. Moi, je lui demandais de la thune, mais lui, il répondait « pas de thune ». Dites-lui qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle a fait. Donc, les 6 derniers mois que j'ai fait à Fresnes, je les ai bien sentis. T'as pas d'argent, t'as pas de cigarette, t'as rien du tout. Ouais, tu le sens. En plus, t'as un fixateur qui fait 10 mètres, t'es en chaise roulante. Ouais, je l'ai bien senti. J'ai vu, c'est un signe, bah, quelque part. Hein. Tu sais, le bon Dieu, il te laisse faire, il te laisse faire, mais tes conneries te rattrapent toujours. Hein. J'ai perdu 3 fois mes appartements avec tout ce qu'il y avait dedans. Parce que cambriolage, on te saisit tes comptes bancaires, on te saisit ce qu'il y a dans la maison pour voir si c'est des trucs volés. On m'a saisi mes bijoux dans le coffre. Pourtant, j'avais beaucoup de bijoux de mon mariage qui ne m'ont jamais été restitués. Parce que c'est cambriolage et pour eux, rien ne prouve que c'est à moi. Alors au bout de 3 fois, tu te dis jamais 204. C'est mort, c'est fini. Même pas un vol de mouchoir. Tu vois, quand t'arrives à 56 ans, tu voles du fromage ou de la viande, ça la fout mal, quoi. Je veux dire, cette fois-ci, je reprends un appart, mais je me case et je reste tranquille chez moi.
On me disait, pourquoi t'es avec des voyous? Pourquoi tu prends toujours des voyous? Mais j'ai peur de m'ennuyer dans une vie normale. Ça me fait flipper moi-même d'avoir ce discours-là. J'aime bien, moi, aller prendre des risques. J'aime ce mec. Oh, c'est vrai, il bosse pas. Oh, il touche le RSA. Oh, il va en prison. Oh, c'est un voyou. Oh, c'est un toxicomane. Je ne vois même pas le risque. Et c'est oui. Et puis, je me dis que peut-être si ces mecs étaient tout simples, si c'était vraiment des modèles de citoyens, peut-être que je m'emmerderais avec eux. Donc, bon, là, j'en reviens parce que je suis en retraite. J'en reviens de cette réflexion. Mais je me dis, est-ce que j'aurais été capable de vivre normalement?
Moi, j'ai aimé, j'ai bien vécu, j'ai voyagé. J'ai beaucoup voyagé. Grande vie, grand hôtel, belle sape. Toujours avec une belle voiture de sport, pleine de bijoux sur elle. Dans le quartier, j'étais la bijouterie ambulante. Ouais, j'ai aimé cette vie. C'était peut-être une vie marginale, mais j'ai aimé. Ce que je regrette plus, c'est ouais, le milieu de la drogue, peut-être. Parce que j'aurais pu faire beaucoup avec tout ce que j'avais et j'ai tout mis dans la cam. Ouais, ça, je regrette. Maintenant, il est trop tard, mais je le regrette quand même. C'est la vie.
Maintenant, je suis dans mon petit appartement que j'ai péniblement acquis avec des années de patience. Je suis à l'allocation adulte handicapé, l'AH, en tant que séropositive. Et je considère que je suis à la retraite parce que durant toutes ces années de deal ou de prostitution, enfin diverses méthodes illégales pour vivre, bien vivre d'ailleurs, je ne profitais aucunement de la sécu ou de la CAF. Mes deux derniers enfants, je n'ai pas touché de parents isolés. Donc les 800 et quelques euros que je touche, je considère les mériter. Je suis considérée comme une usagère qui a une consommation contrôlée. C'est les médecins qui m'ont dit ça. La consommation contrôlée de crack, elle est tout à fait possible. C'est-à-dire que si tu es dans une vie calme, bien stable, bien rangée, mais bien sûr que tu peux être dans une consommation contrôlée. Parce qu'en général, consommation contrôlée entraîne à un horaire de prise qui va être tous les jours le même.
Moi, c'est complètement maîtrisé. Voilà. Le plaisir, par plaisir. Là. Et j'ai pas envie de prolonger après ou de continuer toute la semaine ou tu vois. Ça m'arrive par contre de penser, oh aujourd'hui je fumerais bien juste une taf. Ça m'arrive, je dis pas que ça m'arrive pas.
Hein. Juste une taf.
Puis après je dis, allez, je vais dans ma chambre. Puis j'oublie, il faut que j'oublie en fait, compte sur le moment, il faut que j'oublie. Mais addict, plus du tout. Ça c'est sûr et certain.
Allez, j'ouvre. «
Tiens.
C'est ma pipe.
Ta pipe.
Et la tienne.
Elle est dans ma main, t'inquiète.
Ah ouais, toi, t'es prête à dégainer, toi. T'as entendu ce petit crépitement ? Signe de qualité.
Arte.
Le goût un peu dégueulasse, par contre.
Radio.
Moi, j'ai trouvé bien.
Mais je
le
sais.
Pour le premier, parce qu'il avait un goût d'anisette.
Ça,
et
ça,
quand il
ça...
a un goût d'anisette, je me dis, il est bien, tu vois.
Bon, pour moi, il a un goût de sac poubelle.
Moi, j'ai après... eu direct le goût d'anisette, pas...
Ah ben, je te crois, hein. Chacun sa bouche, hein.
Vous êtes de retour sur l'émission Langue de Fronde sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On vient d'écouter le documentaire sonore de Mirko, La Galette des Reines. Et entre-temps, un oiseau de bon augure est entré dans le studio, Malika, qui est poète.
Ouais, Malika Kadri, un drôle de cas, quoi.
Malika, un drôle de cas, qui est rentré dans le studio pour nous réciter un poème, si
oui.
Tu le veux bien.
Celui-là, je l'écris, qui décrit les conditions de nos préjugés pour balayer nos préjugés et retrouver notre vue afin de voir l'être pour continuer d'être, qu'il soit féminin ou masculin. Je commence ce poème. Homère, arrête de transmettre cette tradition. Toi, la gardienne de prison, te sentir mieux que rien semble te faire du bien. Tu as accepté l'ennui. Tu le transmets à autrui, à tes filles aussi. Les maisons d'arrêt, tu les as toutes connues. Une prison par statut. Ta mère l'a prescrit. Et c'est le sexe qui le décrit. Et c'est le sexe qui le décrit. Prison des innocents jusqu'à l'âge de 12 ans. Prison des préventions jusqu'à ton départ de la maison. Prison cage dorée, mineur à jamais. Maman au répudié, les yeux toujours baissés. Prison mémé, à la fin de ta vie, oh, tu as les clés de la cage dorée. Mais les colombes n'ont plus la force de voler. Et il faut arrêter, il faut arrêter. Toi, le frangin qui cherche ton chemin, ta mère t'a fait émir du genre féminin. Et tu t'entraînes sur les tiens pour perpétuer cette tradition que j'appelle poison. Gardien de prison, mon fils, fais attention à toi. Fais attention à toi. Ta couronne est de fer, ton trône est un enfer, ton sceptre est fait de fer, si tu laisses faire, si tu laisses faire. Solidaire de tes sœurs, laisse parler ton cœur, ta couronne sera légère, ton trône un cœur, ton sceptre un bouton de fleurs, si tu respectes tes sœurs, si tu respectes tes sœurs. Toi, la frangine, ma fille qui cherche ta voix, arrête de voter pour ces lois qui se retournent contre toi. Toi, la mineure à plein temps, chenille et papillon, annihilation et transformation. Tu es la fusion. Citoyenne à plein temps, tu écriras la Constitution. Oh, ta couronne sera couleur, ton trône lumière, ton sceptre mystère, si tu ne te laisses pas faire. Si tu ne te laisses pas faire. Car les préjugés, mes filles, naissent au berceau. Et pour agir, il faut opérer tôt. Et ça, tu ne le sais que trop. Prison des innocents, prison des préventions, prison case dorée, prison mémé, tout a fermé, les colombes doivent voler. Arrête, ma fille, de voter pour ces lois qui se retournent contre toi et du coup contre nous tous aussi, ici, toi, la majeure à plein temps. Et ici, maintenant, merci. Fin de mon poème. Mais par contre, que je finis ce poème, chaque fois je rappelle, attention, moi je ne suis pas contre les traditions tant qu'elles sont là, pour nous aider à retrouver notre humanité à travers nos diversités d'identités qui ne peuvent être que le fruit et la lumière de notre humanité pour l'éternité. Quelques exemples, apprenant à retenir les portes aux personnes derrière nous, à dire bonjour, au revoir, à donner un coup de main dans la mesure du possible, si on peut le donner à celui ou celle qui a besoin. Mais par contre, ma fille, ce poison qu'on appelle tradition et qui te demande à être ce que moi j'ai envie que tu sois et pas ce que toi tu es, c'est à brûler. C'est tout comme lui demander d'être une morte vivante, au moins que ça soit dit clair et pas voilé. Donc ne confondons pas tradition avec poison, car de nos jours, il y a pas mal de poisons qu'on appelle tradition. On a intérêt à les balayer. Merci. Moi, je m'appelle Malika Kadri et je suis une poète des rues, une mendiante du regard et de l'écoute parce que je trouve que le meilleur vaccin contre ce microbe invisible qui se nourrit de nos manques d'amour pour nous éloigner de notre humanité. C'est l'art et la culture dans sa diversité d'identité qui nous aide à balayer nos préjugés pour retrouver notre vue afin de dire bonjour à l'être pour continuer d'être, mais pas à l'avoir pour ne pas se faire avoir. Merci.
Merci. Merci Malika.
Merci
Malika. Qui est un cas.
Un drôle de cas. Peut-être qu'on peut écouter une petite musique et ensuite on reparlera un peu du docu et de tout ce que ça nous a évoqué avec Mirko.
Après, je te laisse la place.
Si ça vous va. Toujours Langue de Fronde sur FPP et les bonheurs se multiplient puisque non seulement on a Malika dans le studio, mais on a l'honneur, le bonheur, le prestige d'avoir avec nous, de passer un petit moment avec celle qui a réalisé le documentaire sonore qu'on a écouté tout à l'heure, La Galette des Reines. Salut Mirko.
Salut. D'abord, je voulais quand même dire qu'on touche le sommet de l'entre-soi dans cette émission.
Voilà, tout de suite, ça dénonce des réseaux mafieux, puisqu'effectivement, Mirko est une langue de fronde. Donc... Mais on n'est jamais
absolument
mieux servi par soi-même.
Ouais, exactement.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de son, de ce documentaire, etc.
Alors, l'origine, c'est... J'ai commencé à y réfléchir, à y penser vraiment fort en 2016. C'était la loi de pénalisation des clients. Et c'était vraiment un climat épouvantable. Il y a une phrase de Virginie Despentes qui dit « Les prostituées forment l'unique prolétariat dont la condition émeut autant la bourgeoisie. Dormir dehors à 40 ans n'est interdit par aucune législation. La clochardisation est une dégradation tolérable, mais la prostitution, non. » Donc, c'était, ce qui était vraiment épouvantable, c'est à quel point c'était une parole totalement inaudible. Il y a très peu de prostituées qui ont parlé, finalement. Alors qu'un des objets de la loi pour les abolitionnistes, c'était de les protéger. Et en fait, on pouvait ni les écouter, ni les regarder. À la télévision, c'était des visages floutés. La radio, c'était des voix transformées. Dans la presse, c'était pas les bons prénoms. Enfin, tout était fait pour... elles étaient censées avoir honte, en fait, et porter la honte. Donc voilà, tout était fait pour qu'elles se cachent. Comme des victimes absolues, quoi. Et en fait, ce regard victimaire, il permet aucune autre parole. Et moi, ça m'avait vachement touchée à l'époque. Puis en plus, je sais pas, j'avais 40 ans. Je sais pas, ça me touchait d'une manière particulière, cette espèce de stigmate sur ces femmes-là, enfin qui sont d'ailleurs pas que des femmes. Donc il y a ce contexte, et puis c'est là que je rencontre Mélissa, donc un des deux personnages. Voilà.
Et du coup, est-ce que tu peux justement sur cette rencontre, nous raconter un peu plus comment tu t'as rencontré Mélissa et Soraya aussi et ouais.
Le moment de la discussion entre elles aussi, est-ce que c'est toi qui a provoqué ou c'est juste comme ça
J'ai rencontré Mélissa via une copine qui faisait des ateliers slam dans un XAP, attention, un centre de soins et d'accompagnement de prévention en addictologie auquel Mélissa participait. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était marrant parce que je me suis vraiment posé la question de comment il fallait que je m'habille. Je ne sais pas si c'était une question de crédibilité ou je ne sais pas. C'était la première question qui m'est arrivée.
Un problème qu'on a moins à la radio.
Un problème qu'on n'a pas du tout à la radio.
Normalement.
Et en fait, j'ai fini par me dire, vas-y, j'y vais en jean basket. Et quand j'y suis allée, elle avait une robe hyper décolletée. C'était l'été, elle avait des talons compensés. Enfin, on était radicalement différentes. Et la fois d'après, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'elle, elle a mis son jean et ses baskets. Et moi, j'ai essayé de m'endimancher un peu comme je peux, parce que bon, voilà. Et c'était marrant, parce qu'il y avait un truc où, comme si on cherchait aussi du commun, ou à se ressembler. Voilà, donc on s'est vus un bon moment, avant qu'on parle même de documentaire et d'enregistrement. Et puis, on a fini par en parler. Je pensais vraiment faire un documentaire plutôt autour d'elle. J'avais imaginé des séquences où on retournait sur ses lieux de travail, voilà, et la suivre beaucoup. Et puis un dimanche, on est allé voir une copine à elle qui s'appelle donc Soraya, et on a bu du thé et ça fusait dans tous les sens et elles ont fumé un peu. On a parlé de plein de trucs différents. C'est surtout elles qui parlent, parce qu'on est quand même avec un gros niveau de parole. Moi, j'ai essayé vaguement d'en placer une ou deux, mais franchement, on est avec des championnes du monde, donc voilà. Et donc, petit à petit, il y a quand même eu un moment où je me suis dit, en fait, le documentaire, il est là. Il est dans cette amitié, dans cette rencontre. Il est sur avec ces deux femmes-là qui s'excusent de rien jamais et... Et je crois que leur puissance, leur joie, enfin il y a vraiment quelque chose qui m'a épatée, quoi. J'étais le premier public totalement conquis
avant de nombreux autres.
Tout à fait.
Et du coup j'imagine qu'effectivement comme elles ont l'air de parler assez facilement et rapidement que cet après-midi-là elle a pas duré la petite demi-heure qu'on a entendu qui est le résultat final. Et que tu as dû couper beaucoup, beaucoup. Enfin, tu as eu des choix de montage à faire, ou des trucs, soit où tu t'es dit ça va pas dans le sens que j'ai envie de raconter, ou des choix que tu as dû faire un peu brutaux sur le montage.
En montage, je pense que je suis vraiment restée sur ma première impression. C'est-à-dire, ce qui me plaisait, c'était leur puissance, leur joie de vivre, cette espèce de. D'équilibre où on dit enfin, comme une joie de vivre qui dit à la fois je vous emmerde, mais qui va jusqu'à bon, bah, c'était peut-être un peu n'importe quoi ce qu'on a fait, mais ma foi, on se pardonne, quoi. Donc, c'était vraiment ça que j'essayais de mettre en valeur. Et en fait, c'était très facile de le mettre en valeur parce qu'elles sont vraiment comme ça. Après, il y a eu des choix de montage que je referais peut-être pas tout à fait pareil. Notamment, j'ai vraiment eu envie d'évacuer toute la psychologie parce que j'étais ultra flippée par le fait qu'on les suranalyse et qu'on parlait de leur enfance. Pour moi, c'était donner aussi... des possibilités à ce que tout le monde dise ah oui d'accord mais alors c'est parce que la mère a fait ci que machin on fait ça et j'avais pas du tout envie de ça mais en réalité c'était peut-être un peu trop radical je l'avoue.
Et en parlant des choix de montage justement il y a un son de guitare qui revient régulièrement est-ce que c'est toi qui l'avais choisi et comment il est venu au montage
Ouais, c'était mon idée. Il est venu comme une ponctuation, peut-être un petit peu trop, d'ailleurs. On va pas se mentir, c'est très souligné. Ouais, comme une ponctuation, ouais. Une façon de mettre en valeur un certain nombre de phrases, les punchlines, de passer du moment où on est avec les deux à des moments où elle se livre plus toute seule. Et en même temps, ce qui est marrant, et ce dont je me rends compte rétrospectivement, c'est que cette grosse guitare, ces distorsions, c'est des trucs que j'aime bien, moi.
Ouais.
Enfin, je veux dire, il y a un truc... finalement, on pourrait presque dire que moi, je suis dans la musique. C'est-à-dire qu'elles, elles se sont jamais considérées comme des punks.
Ouais.
Le punk de l'affaire, c'était quand même un peu moi. Enfin, toute proportion gardée, mais y a vraiment ce truc-là. Donc en fait, je suis beaucoup dans la musique. C'est un peu ma place. Mais encore une fois, je le ferai différemment maintenant.
Bien sûr. Mais c'est ça, la vie.
Ben oui.
Mais oui, parce qu'en plus, le reste des sons qu'on entend, sinon même leur voix, en fait, c'est les voix de nos mères, voire de nos grands-mères, le bruit de la petite cuillère sur le truc du thé et tout. Sinon, tout le reste des sons, ça t'envoie dans une sorte de... Enfin, tu t'imagines vraiment, c'est une sorte de cuisine où, ta vieille tante débrief le dimanche... Alors, ma vieille tante, elle parle pas exactement de tout ça, mais tout le reste des sons, c'est vraiment des trucs d'un autre imaginaire. C'est pas du tout punk, en fait, quoi.
C'est non, zéro non, pas du tout. Et elles sont plutôt maintenant du côté des vieilles tantes qui se racontent leurs histoires, leur jeunesse, beaucoup plus que, en effet, le geste punk, il n'existe pas du tout pour elles, quoi. C'est moi qui les vois comme ça, c'est moi qui les vois comme des punks. Mais
et dans je suppose que tu l'as fait écouter, du coup, quand c'est sorti, c'était aussi ce qui revenait, genre, on disait elles sont grave punk, ou au contraire, on disait c'est des vieilles tantes cool et...
Ben, je pense que c'était un entre-deux. Les réactions, elles étaient toujours un peu différentes. J'ai un souvenir, un des moments de débat un peu intéressant après l'écoute, c'est une femme qui a pris la parole pour dire « Ah, mais mon Dieu, ça m'a vachement touchée, à quel point elles sont libres, à quel point... voilà... Et tout de suite, il y a un homme qui a réagi en disant « Mais libre de quoi ? En fait, c'est quoi d'avoir à vendre son corps ? Et puis l'addiction ?» Et en fait, moi, j'étais super contente de cet échange-là. Mmh. Parce que dans un sens, c'est ça que ça pose. C'est-à-dire, on est libre de quoi ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Enfin, c'est toujours vrai, quoi. Quels sont nos actes délibérés ? Franchement, je n'ai pas la réponse. Et que leur personnalité, elles amènent ça. Elles amènent ce questionnement-là, ça me plaisait vachement, quoi.
Mais parce que, enfin, moi, c'est un bébé à vie d'écoute, mais en fait, dans le descriptif d'Arte Radio, il y a tout un truc genre, ça interroge les limites de notre morale, de la moralité et tout, de ce qu'on est capable de ce pour quoi on est capable de développer de l'empathie, machin. Et il y a un peu un truc où, quand les gens qui se mettent en danger quand c'est des choix, genre au sens libéral, genre je fais n'importe quoi, c'est pas bien. Et quand c'est la vie qui leur tombe dessus, tu disais le registre victimaire et tout, bah dans politiquement c'est compréhensible et tout. Et là elles sont toujours entre les deux, genre elles sont ultra lucides sur un truc de, elles répètent, elles beaucoup, c'est le jeu, c'est la vie, c'est comme ça que ça s'est mis. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs que je n'ai pas kiffé. Ça, c'était pas ouf. Mais c'était hyper, ouais, genre lucide, quoi.
Et d'ailleurs, en parlant de réaction et de réception, est-ce que elles ont écouté le document? Enfin, est-ce que tu as eu un retour de leur part et depuis aussi, enfin, est-ce que tu as des nouvelles d'elles? Comment vont-elles?
Est-ce qu'elles restent en bon terme? Est-ce qu'elles te parlent toujours?
Ouais, c'est les... Quand j'ai eu fini la version, une version qui m'allait, c'était les premières à l'entendre. Elles étaient ok de toute façon. Il y avait vraiment un côté enfin, ça c'est un peu ce que je regrette de pas avoir mis dans le documentaire, c'est que moi j'étais quand même un peu perchée quoi, sur les trucs. Oui, la déviance comme un acte politique, dadada. Elle me regardait un peu, ouais, vas-y, reprends du cake.
Donc, la galette.
Ouais, reprends tu veux pas une petite galette plutôt, sans déconner. Et en fait, je pense que j'ai perdu ta question.
Comment l'ont-elles reçue et comment vont-elles aujourd'hui?
Elles vont plutôt... Elles l'ont très bien reçue. Mélissa, elle a été plusieurs fois avec moi dans les séances d'écoute. Et notamment la première, qui est un goûter d'écoute d'Arte Radio à la Maison de la Poésie. Franchement, elle est montée sur scène, on aurait dit une rockstar. C'était le feu dans la pièce, alors que c'est des moments très feutrés, ouais. Comme ça, où il n'y a que des gens du documentaire. Blablabla. Moi, je monte sur scène, blablabli, blablabla. Oui, on parle mise en scène, machin. Et elle monte sur scène, et elle rafle la mise.
C'est plus feutré.
C'était vraiment trop marrant, quoi. C'était une rockstar, elle montait sur le ring, quoi. Sylvain Gire se liquéfiait. Enfin, il n'osait pas la regarder tellement elle en voit, quoi. C'était vraiment très marrant. Et elle va plutôt bien. Et je lis le papier parce que sinon elle va me gronder. Elle vit maintenant à Strasbourg et elle travaille pour une asso qui s'appelle Addict Lib, qui est une association de santé communautaire d'accompagnement des usagers de drogue, figurez-vous. Et elle est notamment modératrice dans les groupes de parole. Et Soraya, elle s'occupe de sa fille et de sa petite fille. Voilà.
Tu as hyper bien lu le papier.
Le papier. Hein.
Tu as plus de compétences encore qu'on te l'imaginait, c'est impressionnant. On va se quitter là sur une petite musique. On se retrouve en mars. Et juste pour un petit point agenda, comme on se retrouvera plutôt mi-mars, d'ici là, on va se retrouver le 7 mars, où il y aura une marche nocturne organisée par l'AG Féministe Paris-Banlieue. Veille du 8 mars, où nous nous retrouverons deux jours pour un soleil chaleureux et le patriarcat au feu.
Tout à fait.
Et bonne soirée sur FPP.
Bonne soirée.
Merci Malika.
Merci Malika.
Merci Asia.
Merci Régé.
Merci
Léa.
Merci
Garance. Merci Astrid.